Il est grand temps que nous continuions notre lecture du livre de l'Apocalypse. Vous vous souvenez, ce livre s'ouvre sur une grande vision que Jean a sur l'île de Patmos, où il voit le Seigneur ressuscité. Et le Seigneur le charge d'écrire à un certain nombre d'églises d'Asie mineure. Et cette lettre, c'est le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 2 et 3, vous avez des petites portions, des petits textes pour chacune de ces églises. Et puis au chapitre 4 et 5, nous l'avons vu, Jean nous emmène dans les lieux célestes. Il nous fait assister à une sorte de culte céleste. Et au cours de ce culte, l'agneau, qui n'est d'autre que Jésus-Christ, reçoit de la main de Dieu un rouleau scellé de 7 sceaux, parce qu'il est seul digne de recevoir ce rouleau. Et au chapitre 6, nous avons vu l'agneau ouvrir peu à peu ses sceaux. Les 4 premiers sceaux, à chaque ouverture de sceau, il y avait un chevalier sur un cheval de couleur qui s'était lancé sur la terre. Le premier chevalier, c'était la conquête, l'impérialisme. Le deuxième chevalier, la guerre dans tout ce qu'elle a de violent. Le troisième chevalier, c'était la pénurie, l'inflation, la famine peut-être. Et puis, le quatrième chevalier, c'était la maladie et la mort surtout. Le cinquième sceau, nous avons vu les âmes des martyrs qui criaient vengeance, qui demandaient à Dieu de les venger. Et Dieu leur avait fait comprendre que ce n'était pas encore le moment, que leur nombre n'était pas encore complet. Et le sixième sceau, nous l'avons vu, c'était la fin du monde. C'était le jugement qui approchait. Et on a vu des gens vouloir se cacher devant la colère de Dieu et de l'agneau. Et ils crient au rocher, et le chapitre 6 se termine sur cette question lancinante. Ils disent « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait tenir debout ?» Et nous arrivons donc maintenant au chapitre 7e. Et on s'attend à ce que le 7e sceau soit ouvert, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va voir des scènes du ciel et de l'enfer ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc je vous propose de lire ensemble ce 7e chapitre. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent ni sur la terre, ni sur la mer, ni contre aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait de l'est et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria avec une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de nuire à la terre et à la mer. « Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de notre Dieu sur le front. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 furent marqués. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 furent marqués. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône, face à l'agneau, vêtu de vêtements blancs et de branches de palmiers à la main. Il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau !» Et tous les anges debout en cercle autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants, y tombèrent sur leur visage devant le trône et ils adorèrent Dieu. Amen. La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu pour le siècle des siècles. Amen. L'un parmi les anciens me dit alors, « Ceux-là qui sont revêtis de vêtements blancs, qui sont-ils ? D'où sont-ils venus ?» Je répondis, « Bon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande détresse et qui ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, ils le servent nuit et jour dans son sanctuaire, et celui qui est assis sur le trône dressera une tente pour eux. Ils n'auront ni faim, ni soif, le soleil ne les frappera plus, ni la chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître, il les conduira vers les sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Donc ce chapitre, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, ne nous montre pas l'ouverture du septième sceau. Cette ouverture, elle est réservée au chapitre huitième. Le chapitre 7 constitue en quelque sorte une bulle, une pause dans le déroulement des événements, et nous allons voir, il ne s'arrange pas non plus chronologiquement derrière le chapitre 6. Ce chapitre, vous l'avez compris, est constitué de deux visions assez différentes. Et une des difficultés pour nous ce matin, ce sera de comprendre comment ces deux visions s'enchaînent et se correspondent. Mais commençons par la première vision. La première vision, nous montre d'abord cinq anges. En fait, il y a quatre anges dont chacun retient un des grands vents, et ces vents sont destinés à nuire à la terre. Et apparaît un cinquième ange qui leur dit d'attendre. Il ne faut surtout pas encore lâcher ces vents, parce qu'il faut, avant de les lâcher, il faut faire autre chose. Alors, ce n'est pas tout à fait évident à la première lecture de ce texte, mais il y a un lien ici avec le chapitre précédent, et notamment avec les chevaliers de l'Apocalypse. Quand nous avons parlé de cette vision des chevaux, des quatre premiers sceaux, nous avons vu que cette vision fait référence à une autre vision plus ancienne du prophète Zacharie, qui a déjà vu ces chevaliers, ces chevaux, et dans cette vision de Zacharie, nous apprenons que ces chevaliers sont aussi, ces chevaux sont les vents. Et ici, nous voyons donc, selon toute vraisemblance, les quatre anges qui retiennent les quatre premiers chevaliers avant qu'ils soient lâchés sur la terre. Si c'est vrai, et je crois que c'est vrai, alors cette vision nous ramène en arrière. Ce n'est pas quelque chose qui se passe après l'ouverture du sixième sceau, mais c'est quelque chose qui s'est passé avant l'ouverture du premier, avant que le premier fléau n'atteigne la terre. Avant ce moment même, en fait, quelque chose doit se passer, et c'est le cinquième ange qui le dit, il faudra marquer les serviteurs de notre Dieu sur le front. Mais qui sont ces serviteurs ? Qu'est-ce que nous apprenons sur eux dans notre texte ? Nous apprenons d'abord leur nombre. Et c'est un nombre qui a fait couler pas mal d'encre. Ils sont 144 000. Autrement dit, 12 fois 12 fois 1000. Celui qui connaît tant soit peu l'Apocalypse comprend qu'il y a là quelque chose de symbolique. Ce chiffre est très rond. 12, en général, exprime ce qui est complet, les 12 tribus, les 12 apôtres. 1000, c'est un grand nombre par excellence. Donc ici, vous avez un grand nombre de gens. Et puis nous apprenons que ce sont des Israélites. Et vous avez toute une liste avec 12 tribus, et chacune des tribus contribue 12 000 hommes. Quand on voit cette vision comme ça, on se dirait, Jean, il parle d'Israël, enfin d'Israélites. Ce genre de liste, on les connaît de l'Ancien Testament. Vous en avez tout un paquet. Ce sont des listes de recensement. Ce sont pour l'essentiel des listes de recensement militaire. Donc ce texte suggère que ces 144 000, c'est une armée. Mais quand on regarde les listes de ce type dans l'Ancien Testament, on constate aussi une autre chose, c'est que le nombre ici est relativement faible. Si vous regardez les chiffres correspondants de l'Ancien Testament, vous trouverez des chiffres beaucoup plus importants. Nous savons par exemple, quand Israël est sorti d'Égypte, donc au moment même où ce peuple s'est constitué, en quelque sorte, il y avait parmi eux 600 000 hommes capables de porter des armes, ce qui fait une moyenne par tribu de 50 000 hommes. Ici, nous avons 12 000 par tribu, ce qui montre bien que ce n'est pas tout le peuple, c'est un reste. Ce n'est qu'un reste parmi l'ensemble. Mais quand on voit ça, on se dit, Jean, il parle d'Israël. Or, il ne faut pas aller trop vite, toujours dans ces textes, parce qu'il y a aussi le chapitre 14 de l'Apocalypse, et là nous retrouvons ces 144 000, et nous apprenons un élément de taille sur eux. Si vous regardez dans le chapitre 14, vous verrez qu'ils se trouvent devant l'agneau, ils sont seuls autorisés à prendre, c'est les seuls à pouvoir apprendre le cantique nouveau qui est entonné dans le lieu céleste. Et quand on voit ça, on arrive à la conclusion que ce ne peut pas être le peuple d'Israël dans un sens ethnique. Ceux dont on parle ici, ce sont tous ceux qui peuvent apprendre le cantique nouveau, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. C'est tous les hommes et les femmes sauvés. Vous allez dire, mais pourquoi on parle d'eux en ces termes-là? Pourquoi c'est une vision très israélite? Et là, nous allons essayer de comprendre un peu plus tard, mais d'abord, nous allons peut-être parler un petit peu de la deuxième vision. Peut-être un mot avant. Vous dites peut-être que je vais un peu vite en disant c'est tout le peuple de Dieu, ce n'est pas qu'Israël, sur la foi du seul chapitre 14. Mais il faut comprendre une chose. Ces gens-là sont les seuls qui peuvent apprendre le cantique de l'agneau. Et si on regarde les autres textes du Nouveau Testament, on ne constate nulle part une distinction entre des chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne en termes de bénédiction. On ne fait pas le distinguo. Il y a parfois des gens qui érigent ce genre de théorie, mais dans les textes du Nouveau Testament, on ne trouve rien de tout ça. Et c'est assez logique quand on y réfléchit un peu, parce que si vous prenez cette belle image que nous fournit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, nous sommes tous greffés sur Israël. Il y a cet olivier, ce tronc, dans l'histoire du salut. Dieu a fait venir le salut dans le monde à travers le peuple d'Israël. Et il y a ce tronc qui est là, établi, et tous ceux qui sont sauvés à travers les âges sont greffés sur le tronc. Dieu a coupé certaines branches de cet arbre. Tout Israël, au sens ethnique, n'est pas sauvé. Mais les autres, quand le salut, en quelque sorte, s'est élargi au-delà du cercle d'Israël, lors de la Pentecôte, hein, les croyants qui se sont ajoutés ont été greffés sur cet arbre. Et par conséquent, il y a un ensemble. On ne peut plus distinguer. On ne peut plus faire le distinguo, établir une certaine préférence pour les chrétiens d'origine juive ou les autres. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc vous ne pouvez pas séparer les deux. Et c'est tout à fait cohérent, c'est tout à fait approprié qu'on puisse parler d'une vision qui concerne le peuple de Dieu dans son intégralité en utilisant des termes, je dirais plutôt, de couleur israélite. Ce ne veut pas dire que l'Église s'est substituée à Israël, comprenez bien. Ce n'est pas mon propos. Il n'y a pas eu substitution, il y a eu greffage. Hein, c'est-à-dire nous sommes un et il n'y a pas lieu de distinguer ce que Dieu a uni par cette greffe. Chapitre 7 nous présente une deuxième vision, et cette vision-là a une coloration beaucoup plus nouvelle alliance. Jean voit dans un deuxième temps une grande foule, et cette grande foule, elle contraste un peu avec ce qu'on a vu dans la première vision. Là, nous avons vu Israël, là nous avons toute langue, tout peuple, toute nation, tout est là. La première vision nous montre un peuple qui est dénombré, 144 000. Ici, vous avez quelque chose qu'on ne peut pas dénombrer. C'est le peuple de Dieu vu, je dirais, sous un autre angle. Et ils sont dans un lieu que nous connaissons. Depuis que nous avons étudié le chapitre 4 et 5, le lieu céleste, et tout le monde est là, des vieilles connaissances, les myriades d'anges, les 24 anciens, les 4 êtres vivants, le trône de Dieu, l'agneau sur le trône. Il n'y a pas de doute, nous sommes là, dans le quartier général de Dieu, dans la salle de trône de Dieu, où il contrôle l'univers. Et donc il y a aussi cette foule. Et on se pose la question, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Jean, il ne peut pas répondre à cette question, mais on lui explique finalement qui ils sont. Et ça, je nous ai présenté dans un langage, je dirais, que nous avons l'habitude d'entendre, qui nous est plus familier. Ils ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sont des gens qui sont purs, parce qu'ils sont en bénéfice du sang de l'agneau, parce qu'ils sont en bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ. Ils sont purs aux yeux de Dieu parce que leur péché a été porté par l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent. Et là, nous avons en fait la réponse à cette question qui nous a été posée à la fin du chapitre 6, où ces gens-là se demander qui peut tenir debout devant l'agneau et devant Dieu. La réponse, elle nous vient ici, c'est cette foule-là. Et pourquoi? Parce qu'elle est au bénéfice du sang de l'agneau. Ces gens-là, nous est-il dit, sont venus de la grande détresse. Et ça, c'est intéressant, parce que ça nous permet de relier ces deux visions, faire tout à l'heure. Ici, nous voyons que ces gens-là sortent de la grande détresse et ils sont en train d'entrer, en fait, dans ce qu'on appellerait le ciel. Et les derniers versets l'illustrent assez bien. Ils servent Dieu, ils n'auront ni faim ni soif, il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de maladie. Ils ne souffriront plus, l'agneau est avec eux, il les fera paître, et tout se passera bien. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, c'en est fini avec la souffrance. Alors pourquoi ces deux visions et quel est leur rapport entre elles? La première vision nous montre le peuple de Dieu, si j'ai bien compris la vision, il nous montre le peuple de Dieu avant la grande détresse. Et ce que nous voyons, c'est que Dieu va leur appliquer son sceau sur le front. ils reçoivent son sceau qui les marque comme sa propriété, mais qui est aussi un sceau de protection. La deuxième vision, elle nous ramène à la fin de l'histoire, parce que ces gens-là, ils sortent de la grande détresse. Donc c'en est fini de cette détresse, et on les voit entrer dans la félicité de Dieu, dans la joie de leur maître. Donc en fait, ces deux visions, si je les comprends bien, nous montrent ce qui se passe avant et ce qui se passe après cette grande détresse. Et le lien, en fait, c'est que c'est parce qu'ils ont reçu le sceau de Dieu qu'ils peuvent tenir bon et arriver à la fin de l'histoire en entrant dans la joie de leur maître. Jean, en quelque sorte, vous savez, il écrit à des gens qui sont au seuil d'un frémissement de persécution de l'Église. Ils vont vivre des choses difficiles et il leur montre deux choses qu'ils ont besoin de connaître. Premièrement, que Dieu est là et qu'il a mis son sceau sur eux. Et deuxièmement, il leur montre la fin. Il dit, vous allez tenir bon et vous allez hériter de ça. Donc vous voyez, ces deux visions en fait, vont en fait ensemble parce que c'est les deux choses dont ils ont besoin, qu'ils ont besoin de connaître pour pouvoir affronter ce qui les attend. Ce sceau de protection de Dieu, comment faut-il le comprendre? Je ne pense pas qu'il faut voir par là une espèce de protection physique. Ils ne sortent pas du monde. Ils vont subir les conséquences de ce jugement qui attend le monde. Ils vont en souffrir, sans doute. Ils vont peut-être mourir avec les autres. Nous allons voir dans les chapitres ultérieurs qu'un grand nombre d'entre eux vont mourir. Non, ce n'est pas tellement une protection physique, je crois. Mais le sceau de Dieu va leur permettre de tenir bon. Ça va leur permettre de ne pas perdre la foi. Parce que ce qui va venir va les secouer. Et pas qu'un petit peu. Et si Dieu ne les aidait pas, peut-être qu'ils n'arriveraient pas au bout. Mais parce qu'il leur donne son sceau, on peut penser, si ce n'est pas dit, on peut penser qu'il s'agit de son esprit, parce qu'ils sont marqués de son sceau, ils vont tenir debout. Et ils vont arriver, ils vont faire partie de cette grande foule qui entrera dans la joie de Dieu à la fin de l'histoire. Je crois que nous aussi, nous avons besoin de l'entendre. Nous aussi, nous vivons les derniers temps, au sens public. Vous savez, les derniers temps ont commencé avec la résurrection du Christ et se termineront avec le jugement dernier. Nous y vivons et nous aussi, peut-être, nous subirons les dégâts causés par les quatre chevaliers. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas ce qui vous attend et ce qui m'attend. Mais ça sera peut-être pas facile à vivre. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre contexte occidental, français, ce n'est pas très difficile d'être chrétien. Mais quand on regarde de près, les choses évoluent. Je pense à tout ce chemin parcouru par notre société depuis, on va dire, après la guerre. Si on regardait les années 50, les églises chrétiennes étaient encore assez installées, exerçaient leur influence. Je ne dis pas toujours qu'elles le faisaient d'une manière très bonne, mais enfin, elles étaient présentes, elles marquaient la société. Je sais, par exemple, dans la société où je travaille, c'est assez invraisemblable aujourd'hui, mais quand un ouvrier voulait embaucher, on consultait le curé du village. Pour savoir ce qui valait. Bon, aujourd'hui, c'est impensable, mais c'est pour vous dire la place que, finalement, les institutions chrétiennes avaient encore dans notre société. Puis, sont arrivées les années 60, on s'est libéré un peu de cette chape, hein, et on le comprend un petit peu. Et puis, il y avait la libération sexuelle et toutes ces choses-là. Et l'Église s'est ringardisée, peu à peu. Et aujourd'hui... certaines des choses que nous défendons prête à sourire. Je pense à tout le domaine de la morale sexuelle. Que quelqu'un aujourd'hui dit qu'il veut se garder pur pour le mariage ou que la sexualité s'est réservée au mariage, ça fait doucement rigoler. La société a évolué dans un sens... On se moque peut-être, mais ici et là, on voit poindre de l'hostilité. Pour moi, quelque chose d'assez parlant, même si ce n'est pas le sujet le plus important qui soit, mais d'assez parlant, c'est la place que l'homosexualité a pris dans notre société, hein, dans le débat public. Un candidat à l'élection présidentielle... S'il défendait des thèses telles qu'elles sont défendues dans la Bible, ça serait un suicide immédiat. Il ne pourrait pas tenir. Et c'est étonnant de voir à quelle vitesse ces choses-là ont pris de l'importance dans le débat public. Et quelle puissance médiatique est aujourd'hui derrière tout ça. Et moi, parfois, je m'étonne qu'on ait encore le droit d'imprimer nos Bibles en France. Avec des textes, et ça ne m'étonnerait pas qu'il n'en reste pas là, qu'un jour qu'on n'aurait pas des soucis, hein, et que des gens qui voudront défendre l'écriture, la foi chrétienne, dans son sens public, auront des soucis à se faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, je m'étonne parfois un peu de ce que ce n'est pas encore le cas, mais si les choses évoluent comme je pense qu'elles ont évolué depuis un certain temps... On n'en est pas loin. Et peut-être demain, ça sera difficile de vivre en chrétien, dans nos sociétés. Peut-être ce premier chevalier de l'impérialisme, de la conquête, va nous coincer, va nous poser problème, va nous causer des souffrances. Et il sera à ce moment-là très difficile de rester attaché, parce qu'on détonne dans la société, on n'est pas en phase, on n'est pas confortable. Et donc, peut-être serons-nous tentés de sacrifier certains pans de l'écriture au nom de l'harmonie. C'est possible. Peut-être désespérons-nous de l'enseignement biblique. Mais peut-être tout ça, c'est des rêveries. Peut-être ça se passera tout autrement. Et je suis un très mauvais pronostiqueur, donc ça se passera certainement autrement. Et même si ce chevalier nous épargne, peut-être d'autres vont nous faire désespérer. Peut-être la guerre. Nous vivons dans un monde où les ressources se raréfient. Pas besoin d'être prophète pour se dire qu'on va finir par se bagarrer. Pour l'eau, pour ce qui reste de pétrole, pour que sais-je, les terres rares. Et même si celui-là nous épargne aussi... Il y en a un qui ne va pas nous rater, c'est le quatrième, c'est la mort. Et je pense d'abord à la mort de proches, de gens que nous aimons, qui nous sont chers. J'ai reçu il y a quelques années un livre d'un psychiatre chrétien qui avait perdu en très peu de temps son fils aîné qui s'est suicidé et ensuite son fils de 4 ans qui est mort d'un cancer. Et j'ai jamais oublié la première phrase de ce livre. Je vais vous la lire. Je la trouve très, très forte. Il dit « Rien n'est aussi choquant que la mort d'un enfant. Rien ne fait davantage apparaître l'univers comme un endroit amer et absurde. Rien n'ébranle d'autant le trône de Dieu. » Et ça, cette souffrance que peut déclencher la mort, ce n'est pas quelque chose qui ne touche que les chrétiens superficiels. Je vais vous lire un autre texte que j'ai trouvé dans l'autobiographie d'un grand prédicateur britannique qui a vécu dans la deuxième moitié du 19e, à Londres, un certain Joseph Parker. Grand prédicateur, un ministère extraordinairement béni, et à l'âge de 68 ans, il a perdu sa femme après 34 ans de mariage. Et voilà ce qu'il a écrit. C'est pas un débutant. Dans cette heure sombre, j'ai failli devenir athée. Comment pourrais-je exister maintenant? Ma plus grande joie ayant été enlevée, ma seule joie, cette joie qui rayonnait sur tout le reste, cette joie qui transformait mon ministère en sacrement. Ô amertume de Gethsémané, ô solitude du calvaire, j'avais secrètement prié Dieu qu'il ait pitié de moi en l'épargnant elle, mais il a piétiné mes prières, il a traité mes requêtes avec mépris. Si j'avais vu un chien souffrant comme moi je souffrais, j'en aurais eu pitié et j'aurais aidé la pauvre bête. Mais Dieu m'a craché au visage et m'a chassé dehors comme un malfaiteur, dehors dans le désert et dans la nuit noire et sans étoiles. C'est un prédicateur d'envergure qui a vécu ça lors de la mort de son épouse. Donc la mort, elle peut nous ébranler dans notre foi. Et ça, c'est la mort des autres. Je pense aussi à notre propre mort. Je ne sais pas ce que c'est que de mourir. Je ne suis pas pressé de le savoir. Mais je suis intimement convaincu que ce sera une grande et ultime épreuve de notre foi. Quand on est devant ce seuil, on pose la question, mais qu'est-ce qui vient après? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient après? Vraiment? Et si tout ce qu'on m'avait raconté, c'était des balivernes? Pas évident. Pas évident. Et donc, ce quatrième chevalier-là, il nous aura. Et nous aurons besoin de cette protection de Dieu. Nous avons besoin d'entendre ce que Jean nous dit ici, que Dieu a mis son sceau sur nous et que nous arriverons à bon port. Nous avons besoin de cette aide. Donc, Jean nous dit ici, il dit à ces gens-là du premier siècle qui vont peut-être connaître la persécution, et il le dit à nous aussi. Mes amis, Dieu a mis son sceau sur vous, il vous protège. Je vous montre ce à quoi vous pouvez vous attendre, ce qui va venir. Et fort de ces deux certitudes, maintenant, quoi qu'il arrive, tenez bon. Tenez bon.